Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Première fin de semaine... Pardon, première fin de semaine de novembre 2024. Ici Alex Bayergeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Ça part fort. Bienvenue au deuxième service du Réchaud sur les ondes de CFAQ 88.3 et de Chiz 94.3 à Québec, vos radios universitaires préférées. Content de vous retrouver cette semaine. On fait des on fait des dégustations à l'aveugle au bureau. Ici à Sherbrooke et ça donne des drôles de résultats. Bref, content de vous retrouver cette semaine. Pour parler de l'actualité, comme à l'habitude. Avec notamment des résultats pour... continuer dans les élections, puisqu'on en avait parlé au dernier épisode. Susan Holt, nouvelle première ministre du Nouveau-Brunswick, et qui plus est francophone, ou du moins qui sait parler le français. A composé ce vendredi, son cabinet, qui va compter 11 francophones, contrairement à Blainix, qui n'avait qu'un seul et qui avait même claqué la porte. Et un cabinet qui aura 6 femmes aux côtés de Susan Holt. Sur les 19 ministres qu'elle aura. Donc, dans le cas du Nouveau-Brunswick, ça a été beaucoup plus facile, beaucoup plus simple. On se souviendra qu'en Colombie-Britannique, on avait terminé la soirée avec 41 et 40 sièges, ou à peu près un seul siège de différence entre le NPD qui était en avance et le nouveau Parti conservateur de la Colombie-Britannique. Il aura fallu attendre en début de cette semaine pour savoir que le NPD allait compter 47 députés, ou du moins 46 sûrs et 1 en attente, tandis que le Parti conservateur était à 45 avec 44 sûrs et un autre en attente. Ce qui pouvait faire en sorte que en ce moment, le NPD pouvait tomber majoritaire avec ces 47 sièges-là, ou plus un et être certain d'avoir la majorité, ou un de moins et tomber minoritaire avec une balance du pouvoir avec les deux sièges que les Verts avaient obtenus. Donc ça, c'était pour la Colombie-Britannique. Puisque dans les deux circonscriptions en tant que telles, où c'est serré, on est à un peu moins de 50 et un peu plus de 50 de voix de différence entre le dernier siège du NPD et le dernier siège des conservateurs. Donc, au recomptage, si l'un ou l'autre perd ou gagne, ça peut encore une fois influencer entre la majorité ou la minorité. Mais chose à peu près déjà réglée, c'est le NPD qui l'a emporté. À moins d'un revirement de situation des plus totales, le NPD forme le gouvernement, mais encore une fois, est-ce que c'est majoritaire, minoritaire, c'est encore en suspens. La troisième élection qui a eu lieu cette semaine, c'est en Saskatchewan. Oui, Saskatchewan. Pourquoi j'ai pas cru que c'était le Manitoba deux secondes? Saskatchewan, où s'affrontaient le NPD et le Parti saskatchewanais. La soirée a débuté avec le Parti saskatchewanais qui était en très grande avance et cette grande avance-là ne s'est jamais estompée. Ce qui a fait en sorte que le parti au pouvoir de Scott Moe est retourné à la tête de la province, mais en perdant beaucoup de plumes. Ils étaient majoritaires suite à la dernière élection. Mais cette élection-ci, par contre, ça s'est gâté. 14 sièges ont été perdus par le Parti saskatchewanais pour les donner au nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan. Ce qui fait en sorte que, oui, Scott Moe reste majoritaire avec 34 sièges, puisque le nouveau Parti démocratique, lui, en a 27. C'était une élection avec seulement deux partis qui ont pu faire des gains. Tous les autres se sont effondrés. Ce qui fait également en sorte que, et ça, c'est où ça a été fatal, et pour la Saskatchewan, et pour le NPD, c'est que l'un a été extrêmement fort en région, le Parti saskatchewanais, mais les villes, elles, ont préféré le NPD. Ce qui fait également en sorte que trois ministres de l'ancien gouvernement Moe ont perdu leur siège puisqu'ils étaient et à Regina et à Saskatoon. Ce qui fait dire également que le NPD n'a pas été capable de faire passer son message en dehors des grands centres et inversement, le Parti saskatchewanais n'a pas réussi à convaincre les gens de la ville qu'ils étaient une bonne option pour eux. Du moins, renouveler leur confiance dans les villes. Et sinon, les deux circonscriptions les plus au nord qui touchent avec la frontière des territoires du Nord et du Nunavut, Nunavut aussi, je ne sais pas. En tout cas, les deux frontières, les deux circonscriptions du Nord, elles, sont au NPD, mais tout le reste est au Parti saskatchewanais. Tandis que, voilà, l'inverse, c'est que les villes, sauf une circonscription, je pense, c'est à Saskatoon, qui est verte. Mais sinon, aucune représentation des villes pour l'un, aucune représentation de la campagne pour l'autre. On peut se dire que c'est similaire avec ce qui s'est fait avec le Québec, au sens où, à une élection, le NPD est rentré très fort à Sherbrooke, est rentré fort dans une partie de la ville de Québec, à Montréal, bien sûr, et en Abitibi, lorsqu'Émilie avait été élue, elle avait réussi à se faire élire la première fois. Donc, les villes universitaires, les villes jeunes, avaient davantage voté pour le NPD. Les villes avaient voté pour le NPD. Tandis que tout ce qui était campagne, tout ce qui était plus rural aussi, ont décidé de voter pour le parti au pouvoir, la CAQ au Québec, en Saskatchewan, le parti saskatchewanais. C'est une déception, et pour un et pour l'autre, parce que un a perdu, comme je le rappelle, 14 sièges, ça c'est 6,8% des votes, ce qui est quand même énorme, même s'il termine avec 52% des suffrages, ça reste quand même une diminution puisqu'ils étaient à 60 à la dernière élection. Voilà, 14 sièges qui changent de main, c'est énorme. Où le NPD aurait pu faire des gains, c'était notamment à Prince-Albert, là j'y vais de mémoire, et je pense que c'était Moose Jaw. Les deux autres circonscriptions, donc les deux sont divisées en deux, et auraient pu être des gains pour le NPD, donc une représentation en région, entre guillemets, mais malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé, comme je le disais, le Moose Jaw, voilà, le message n'a pas passé. Et Paris semi-remporté pour Scott Moore. Paris remporté au sens où il reste majoritaire, mais où il perd, c'est lorsqu'on peut lui dire qu'il ne rejoint pas l'électorat le plus dense, puisque dans les villes, évidemment, il y a davantage de circonscriptions. Et dans le cas de la Saskatchewan, ça a pris énormément de temps avant que les résultats commencent à entrer. Il y avait beau avoir un peu moins de boîtes de vote, mais ça restait quand même que les boîtes étaient plus volumineuses. Donc, ça a pris quand même un bon 45 minutes, quasiment une heure, avant que les premiers résultats soient communiqués par Élections Saskatchewan. Autant en Colombie-Britannique, ils sont obligés d'attendre 10 jours pour être peut-être capables de dire « Ah oui, finalement, ce sera le NPD » versus la Saskatchewan qui ont dit « On va faire des plus grosses boîtes ». Comme ça, ça va juste être plus long à compter. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Mais ça n'a pas fait l'épreuve des faits, ça c'est sûr. Comparé par exemple au Nouveau-Brunswick, où ça s'est réglé quand même assez rapidement. On a pu entendre les mots « si la tendance se maintient, le prochain gouvernement sera, dans ce cas-ci, libéral et majoritaire ». Ça s'est décidé ça aussi extrêmement rapidement, c'était majoritaire ou minoritaire. Comparativement à nous autres aussi au Québec, où justement les votes par anticipation sont déjà comptabilisés, ou en tout cas le vote par la poste est déjà comptabilisé lorsque vient le temps de commencer à soumettre des résultats. Ce qui fait en sorte que ça n'a pas été rare dans les dernières élections où 20h07, Radio-Canada TVA prévoit que François Legault allait remporter ces élections-là. Je ne sais pas ce qui est le mieux, faire 45 minutes à juste jaser de « oui, mais ceci est important, ceci pourrait l'être », etc. Mais que finalement, ça ne se concrétise pas. En tout cas, ça prend du temps. Je ne sais pas quelle manière de faire serait la meilleure, mais on verra bien. On verra bien ce que ça donnera. Sinon, la dernière province qui tombe en élection, mais en fait qui a déclenché des élections, c'est... Là, je ne veux pas dire n'importe quoi, parce que j'ai l'impression que il y a quand même... c'est quand même pas la même chose. Voilà, Nova Scotia, Nouvelle-Écosse. J'allais dire Île-du-Prince-Édouard, mais c'est Nouvelle-Écosse qui tombe en élection, eux aussi. Fin novembre, on saura si le Parti conservateur, lui aussi, remportera son pari d'avoir déclenché des élections hâtives en ayant voté la dernière session parlementaire pour des élections à date fixe. Donc le 26 novembre prochain, Tim Houston sollicitera un deuxième gouvernement majoritaire pour pouvoir, dit-on, poursuivre ses réformes en soins de santé, s'attaquer aux crises du coût de la vie. Et voilà, faire ça. Ce que à peu près tous les autres ont probablement déjà dit également. Dans ce cas-ci, il avait comme première résolution, il avait voté des élections à date fixe. Et première chose qu'il a fait, c'est déclencher des élections hâtives. Parce que le timing est bon pour la marque conservatrice, peut-être. Est-ce que, par contre, les gens de la Nouvelle-Écosse vont peut-être lui faire payer d'aller en élection hâtive alors que c'était seulement prévu l'automne prochain? Sait-on jamais. C'est pas complètement impossible. Le mieux qui pourrait arriver, peut-être, c'est qu'il tombe minoritaire. Là, dans ce cas-ci, ça ferait réellement d'autres élections hâtives d'ici 2 ans. Mais reste à voir ce que décideront les gens de la Nouvelle-Écosse. Mais si on suit la tendance au fédéral où ils allaient possiblement tous abandonner le Parti libéral pour faire place à Pierre Poilievre, c'est pas complètement impossible que Tim Houston fasse de même. Sait-on jamais? Parce qu'encore une fois, souvent on mélange grands noms et les grands noms de partis davantage aux réalités locales. C'est ce qui est arrivé en Colombie-Britannique. Des gens sont allés voter conservateurs en pensant qu'ils votaient pour Pierre Poilievre pour éliminer Justin Trudeau et sont restés bêtes quand ils se sont rendus compte que finalement, c'était peut-être un petit peu plus local que national comme élection. Donc, bonne chance à la Nouvelle-Écosse! Quatrième élection quand même, à la fin novembre, juste cette année. Donc, ça serait complètement absurde, Bloc québécois, de déclencher des élections aussi au fédéral. Surtout pour les gens de la Nouvelle-Écosse qui, eux, auraient deux élections en même temps. Ce ne serait pas particulièrement joyeux pour eux, disons ça comme ça. On s'arrête là-dessus. Au retour, la suite de ce deuxième service sur les ondes de CFA 88.3 et de Chiz 94.3. Retour au deuxième service. Bon enfant qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de Chiz, sur les ondes de CFAQ. Je l'ai mentionné juste avant la petite pause. On avait notre bon ami Yves-François Blanchet qui a décidé de brasser les cartes avec son ultimatum qu'il avait mis dans les pattes de Justin Trudeau, que s'il n'y avait pas ce qu'il obtenait, ben, il allait le menacer de défaire le gouvernement. Eh bien, il l'a fait cette semaine. Donc, le Bloc québécois demandait à ce que les réformes pour les personnes âgées, donc les pensions, allaient être améliorées et pour le Québec et pour le reste du Canada. Le gouvernement n'a pas donné suite à cette demande-là et avait donné un ultimatum jusqu'à cette semaine pour... c'est ça, voilà, un ultimatum qui avait été imposé il y a cinq semaines le Bloc québécois maintenant votera si la motion est bonne pour le Québec pour défaire le gouvernement de Justin Trudeau. En disant ça, il disait ça parce qu'il travaille dans l'intérêt des Québécois. Mais est-ce que l'intérêt des Québécois, c'est réellement d'avoir un gouvernement Poilievre majoritaire avec 215 députés et peut-être la balance des électeurs l'autre bord avec une quarantaine pour le Bloc? On s'entend que 40 contre 215, c'est pas ça qui fait une différence de toute façon. On ne pouvait pas aller plus loin en termes de bonne foi, de transparence, de franchise, d'ouverture. Il aime beaucoup ça, les synonymes, François Blanchet. Je dirais même d'opportunité pour un gouvernement qui est en détresse de l'intérieur et de l'extérieur, avait affirmé en point de presse Yves François mardi. Il n'a pas saisi la perche au moment où on se parle, sous réserve de ce que fera le NPD, qui a encore la capacité de tenir le gouvernement. Ses jours sont comptés. Le Bloc québécois avait réclamé, voilà, l'adoption d'ici le 29 octobre par la Chambre des communes et le Sénat de ces deux projets de loi sur la bonification de la pension de la sécurité de vieillesse et sur la protection de la gestion de l'offre lors de futures négociations commerciales. Peu importe ce que ça veut dire. Blanchet aurait rappelé que les deux projets de loi toucheraient 4 millions d'aînés au Québec, au Canada et 1 million au Québec, de même que des dizaines de milliers de producteurs agricoles sous la gestion de l'offre. Donc, ce sont deux choses, finalement, ce sont deux dossiers. La protection de la gestion de l'offre lors de futures négociations commerciales, c'est un truc. Les pensions de vieillesse, c'en est un autre. Évidemment, Justin Trudeau n'avait pas nécessairement beaucoup d'argent non plus, parce qu'évidemment, ils n'ont plus d'argent. Donc là, il n'y en avait pas nécessairement de plus, n'a pas donné suite et a officiellement, maintenant, techniquement, deux partis contre lui. Mais ces deux partis-là, ensemble, ne suffisent pas à défaire le gouvernement. Il reste tout de même le nouveau Parti démocratique de Jack Metzing qui peut garder Justin Trudeau au pouvoir si un vote de confiance est à nouveau déposé par les conservateurs, chose qui arrivera très certainement lorsque peu importe quoi sera présenté par le Parti libéral, le NPD mettra une motion de non-confiance envers le premier ministre. Ce qui fait en sorte que, voilà, Jack Meat a maintenant, encore une fois, entre ses mains, le pouvoir de garder ou défaire le parti libéral. Dans ce cas-ci, on dit qu'il est hors de question pour les néo-démocrates de voter pour le roi des coupures, Pierre Poilievre, pour faire tomber le gouvernement, a tranché Jack Meat le lendemain. Les conservateurs l'avaient mis au défi la veille de dire clairement s'ils comptaient continuer de soutenir les libéraux ou non après l'échec de l'ultimatum du Bloc québécois. L'avenir du gouvernement libéral est donc sauf pour les prochaines semaines, voire peut-être prochains mois. Ce que ça fait, ou plutôt ce que Jack Meat a dit, je ne vais pas laisser le Bloc ou le roi des coupures, Pierre Poilievre, décider comment on va déclencher une élection. Il rejette d'appuyer toute motion de censure déposée par les conservateurs d'ici la relâche des fêtes. Voilà, c'est le petit bout d'information qui me manquait. Il a assuré que d'ici Noël, il n'y aurait pas en plus d'élection fédérale. Reste à voir s'il le fera vraiment, mais ça reste quand même, pour l'instant, sa parole qui tienne. Les néo-démocrates continueront d'appuyer les motions et les projets de loi s'ils aident les gens à faire face à la hausse du coût de la vie. Les libéraux ne peuvent pas tenir pour acquis notre appui. On va analyser chaque vote, on va analyser chaque motion pour décider est-ce que c'est quelque chose qui aide les gens, est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'intérêt des gens, avait dit Jack Meat là-dessus. La balle est dans le camp du NPD depuis l'échec de l'ultimatum du Bloc. Les bloquistes avaient réclamé, bon, ça on se répète là-dessus. Lors de la période des questions mercredi, le leader parlementaire du Bloc québécois, Alain Terrien, a accusé le premier ministre Trudeau d'avoir abandonné 1 million de retraités québécois pour retourner avec son ex, le NPD. Oui, parce que des parallèles de couchettes sont très à la mode dans ce cas-ci, parce qu'on dit que le NPD qui avait, et ce qui est bien vrai aussi, claqué la porte au début de la session parlementaire cet automne en disant que et Et Justin Trudeau et Pierre Poilievre n'étaient pas des options valables pour les Canadiens et que seul le NPD et Jagmeet étaient la solution pour défaire les deux autres. Chose qui s'est pas tout à fait produite non plus puisqu'on était à quelques jours des partiels qui avaient lieu et à Montréal et dans l'Ouest, où d'ailleurs le NPD avait conservé son siège dans l'Ouest, mais qui n'avait pas réussi à faire de gains sur l'île de Montréal, puisque c'était le Bloc québécois qui l'avait emporté. Donc, la seule et unique option valable pour défaire et Justin Trudeau et Pierre Poilievre, c'est un gros mandat. Il s'est mis beaucoup de pression sur les épaules en disant le tout, parce que dans ce cas-ci, une sur deux, c'est avéré vrai. Et justement, cette crainte-là que Jagmeet a de partir en élection, c'est parce qu'il sait qu'il ne formera pas le prochain gouvernement. Peu importe ce qu'on va en dire, et ça, c'est de l'avis de plusieurs experts, justement, s'il croyait réellement à son propre discours d'être la seule et unique option valable contre et Justin Trudeau et Pierre Poilievre, il déclencherait des élections immédiatement, lui aussi. Mais comme il l'attend, en justifiant que ce n'est pas le bon temps ou en justifiant que présentement les votes vont dans le sens qu'il voudrait que ça aille, ben ça confirme ou ça infirme que Jagmeet n'est pas nécessairement le plus prêt. Bon, des gens parlent du financement des partis. Évidemment, le NPD a beaucoup moins de ressources que les deux autres. Ça reste quand même un plus petit parti au niveau fédéral. Mais ils ont quand même été capables de faire des élections les autres fois. Ils ont quand même été capables de présenter des candidats aussi dans chaque circonscription, ce qui n'est pas complètement facile non plus. On peut en parler à d'autres plus petits partis qui, des fois, sont seulement dans deux provinces ou dans seulement une seule province même. Mais voilà, ça reste quand même des options sur la table de déclencher des élections au printemps prochain, ce qui semble être maintenant le nouveau scénario possible. Mais tant qu'à faire des élections en mars, pourquoi pas les faire rendus en septembre comme ils devraient être normalement à l'horaire? Mais encore là, c'est pas dit, parce que justement, Pierre Poilievre va pouvoir déposer des motions de non-confiance et empêcher à ce qu'il y ait des trucs qui se fassent au Parlement comme ils le font déjà. L'obstruction est déjà enclenchée, mais encore une fois, c'est d'être capable de se rallier les deux autres pour que ça éventuellement fonctionne, mais encore une fois, c'est pas tout à fait que reste à voir ce que ça donnera. On s'arrête quelques instants pour parler cinéma au retour de la pause sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Vous écoutez le deuxième service pour la prochaine demi-heure. Valence, qu'on vient d'entendre en musique. Allons en bord d'annonce tout de suite avec... avec le film Ici qui prenait l'affiche aujourd'hui même, mettant en vedette notamment Robin Wright et Tom Hanks.
Hey, papa! J'aimerais te présenter Margaret.
C'est un plaisir de te rencontrer, Margaret.
Tout le plaisir est pour moi, Monsieur Young.
Le temps passe vraiment vite, pas vrai?
Ça, c'est certain.
C'est bien ici que nous voulons être.
Tu sais, si tu voulais, tu pourrais passer le reste de la nuit ici.
Je pourrais passer le reste de ma vie ici.
De notre maison. On a vécu ici.
Ah, c'est une bande-annonce visiblement beaucoup plus visuelle que finalement auditive. Dans Ici, Here, une maison est le témoin privilégié de l'évolution humaine, des joies, des peines du quotidien, ainsi que des événements marquants d'une existence, que ce soit des naissances, des décès. Richard a grandi dans cet endroit où ont habité tant de gens avant lui, dont ses parents, qui se sont sacrifiés pour assurer une enfance clémente. En vieillissant, il a rencontré Margaret et fondé sa famille, délaissant la peinture pour un emploi lucratif. Il fera d'autres décisions par la suite. Les années s'écoulent, les bonheurs côtoient les regrets, et qui sait ce que le temps réserve à ces êtres qui vivent tout simplement. J'ai l'impression que les critiques sont quand même sévères avec ce film-là. Essentiellement, la prémisse, c'est qu'on est dans l'angle du salon de cette maison-là, mais pas que le salon. On revient également dans le temps à ce qui s'est passé à cet exact endroit-là, au sens où on a une caméra fixe tout au long du film et on vit les événements qui se sont produits dans cet angle de caméra-là. Donc, ça fait en sorte que, oui, on a des années 50, je dirais, jusqu'à aujourd'hui, ce couple-là, le couple que forment Tom Hanks et Robin Wright, comme à la belle époque de Forrest Gump, puisque ce sont les deux acteurs titres également de Forrest Gump, mais dans ce cas-ci, ils se retrouvent dans une autre vie complètement différente. Donc, ça fait en sorte, voilà, que ces personnages-là, oui, vont occuper cette maison-là pendant 50 ans, mais il reste quand même que les 50 premières années, puisque la maison a été construite en 1900, ont eu son lot de d'habitants, trois, si je me souviens bien. Et évidemment, il y a eu, avant que la maison soit construite également, des gens qui restaient dans la maison d'en face. Et on arrive également avec les gens qui vont acheter la maison après. J'allais dire Robin Williams, mais après Tom Hanks et Robin Wright. C'est le genre de film que j'apprécie beaucoup, au sens où des chroniques de vie, tu sais, la série « This Is Us », à la télé, c'était ABC, me semble qu'il l'avait, ou NBC. Non, c'est ABC parce que c'est sur Disney+. This Is Us, Boyhood, à la limite, qui sont, c'est ça, des chroniques de famille, tu sais, il n'y a pas de si grands drames. On n'a pas besoin de tout le temps avoir 40 divorces, d'avoir 12 mariages. Tu sais, comme un peu un soap américain va beaucoup insister là-dessus. Dans ce cas-ci, ben c'est ça. C'est 50 ans dans cette maison-là, avec cette famille-là, entrecoupée des familles du passé, entrecoupée des événements du passé, parce que le film commence littéralement à l'extinction des dinosaures. Fait qu'on est vraiment au début, jusqu'aux années 1900, où habitent les premières personnes. Oui, y a-tu deux couples ou trois couples avant eux autres? Il y a trois couples, je pense. Et avec ceux, évidemment, du futur, entre guillemets, mais c'est un futur quand même assez récent dans notre cas. Y a toujours un indicateur de temps où ce qu'on est rendu, que ce soit les téléphones, la radio, la musique qui joue, la télévision, ce qui joue dans la télévision. T'sais, les événements de vie comme ça, c'est un peu contemplatif parce que c'est une proposition. On reste dans un angle de salon du début à la fin. Jamais on va voir les autres pièces où ça prend un prétexte pour être capable de voir la cuisine. On devine, c'est ça, la cuisine est de ce côté-là, l'escalier pour monter en haut est de l'autre côté. Fait qu'on choisit volontairement de vivre dans ce salon-là. Tout ce qui s'est passé dans ce salon-là, le salon en question. Et ça fonctionne tant qu'à moi. Mais voilà, les critiques sont un peu sévères parce que le scénario est un peu mince. Effectivement, c'est pas, comme je dis, c'est pas une histoire rocambolesque avec des naufrages en mer. Puis, tu sais, il n'y a pas d'énorme drame, même dans les plus vieilles familles, le plus gros drame n'est pas celui qu'on va attendre, même si ça reste quand même très localisé. On vit à peu près tous les déménagements aussi, toutes les transitions de cette maison-là, ne serait-ce. Puis c'est vraiment des petits détails qui font en sorte que ça varie d'une époque à l'autre, tu sais, de passer de début 2000 à 2010. On a ajouté des lumières au plafond et au-dessus du foyer, il y a des fils pour la télévision qui dépassent. T'sais, la télévision qui était à côté du foyer est montée au-dessus du foyer dans les années modernes. Fait que, t'sais, c'est autant des petits détails comme ça. C'est subtil, t'sais, la couleur des murs, le tapis, t'sais, tout ce qui varie, le divan. Il y a un divan qui reste là longtemps, puis il y a des gags là-dessus. Fait que, t'sais, l'évolution qu'il y a dans ce lieu donné-là est intéressant. Bon, c'est ça. Est-ce que c'est un scénario à tout casser? Évidemment que non, ça ne gagnera pas nécessairement des prix pour l'histoire du film, mais pour l'exercice qui en est de faire un film à 99% du même angle, toujours dans la même direction, que c'est seulement les gens qui vivent dans la maison qui, eux, varient. Que ça va être de la couleur de cheveux, de la prise de poids, les personnes qui sont dans les entourages vont être changées aussi, les soupers de Thanksgiving, Noël, etc. Puis, il y a des belles séquences. Il y a des belles séquences de vie ordinaire. Tu sais, c'est littéralement, mettons une caméra dans chaque maison, dans chaque salon, et ce sera des histoires différentes. Il y a des histoires plus calmes, des histoires plus dramatiques. Dans ce cas-ci, on est entre les deux. T'sais, évidemment, il se passe des événements pour justifier, par exemple, les déménagements, pour justifier l'apparition, la disparition de certains personnages, etc. Fait de donner un segment de vie, et non pas qu'à une famille en particulier, parce qu'évidemment, oui, eux, ils ont été là 50 ans, fait que ça justifie qu'on les suive davantage. Mais reste quand même que c'est une maison qui a 123 ans. Je pense qu'on termine à peu près ça en 2022-23, si c'est pas 24. Et ça fonctionne. Ça fonctionne complètement. C'est un beau film, visuellement. C'est réussi. C'est sûr qu'au début, on fait beaucoup d'allers-retours entre l'époque coloniale, on est beaucoup en 17-18, mélangé pour ensuite finalement arriver dans les années 1900, mais ça reste quand même fluide. On comprend les liens qui sont faits aussi. Tu sais, je parlais du gag de divan. Ben, il y a un lien avec les divans dans l'histoire de cette maison-là. Le party d'Halloween, il y a un très gros lien avec les voisins d'en face, mais ça reste quand même à découvrir. Il y a quand même un clin d'œil. Au début, on n'est pas sûr, mais le clin d'œil est là quand même. Donc, ça vaut la peine d'être vu sur le grand écran, et ne serait-ce que pour les fans inconditionnels de Forrest Gump, retrouver Tom Hanks et Robin Wright dans le couple principal. Bon, c'est sûr que Tom Hanks, à 18 ans, c'est un petit peu moins crédible quand son père, c'est Paul Bettany, et que Paul Bettany est beaucoup plus jeune que Tom Hanks. Ça, c'est un peu drôle. Il aurait pu prendre adolescent Richard et adolescent Margaret, mais ils ont décidé de faire Tom Hanks et Robin Wright à 18 ans, entre guillemets. Il y a des gens aussi qui chialaient là-dessus, mais honnêtement, il faut se fier davantage au décor pour se rappeler à peu près où on est rendu, dans quelle année. Mais ça fonctionne quand même. Ça fonctionne quand même, j'ai envie de dire. Hormis ça, là, si on est bien imprégné de l'ambiance, ça fonctionne quand même. On s'arrête là-dessus au retour. Autre film qui a pris l'affiche dans les derniers jours, c'est Conclave, où on suit la succession d'un pape qui n'est jamais nommé, avec tout ce que ça implique de nommer un pape. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. De retour au deuxième service. Prochaine bande-annonce, comme je le disais, c'est Conclave qui a pris l'affiche la semaine dernière.
Le pape est mort. Le trône est vacant.
De quoi est-il mort ?
D'un infarctus, apparemment.
Vous savez que les rumeurs se répandent vite, surtout quand plus d'un milliard de personnes vous regardent.
Eh bien, cardinal Lawrence, il semble que la responsabilité du conclave repose sur vous.
la supervision de cette élection est une tâche que je ne croyais jamais accomplir. Ils seront séquestrés et devront être coupés de toutes les nouvelles qui pourraient influencer leur décision. C'est compris?
Nul homme sorcier ne voudrait de la papauté. Ce sont les hommes dangereux qui sont prêts à tout pour l'obtenir.
C'est plutôt inquiétant.
J'espérais avoir la chance de vous parler en privé.
Vous semblez inquiet. Est-ce que tout se passe comme prévu?
Comment cela a-t-il pu rester secret si longtemps?
Nous ne trouverons jamais un candidat qui n'a pas la moindre tâche à son dossier.
Nous, les sœurs, nous sommes censés être invisibles. Mais Dieu nous a tout de même donné des yeux et des oreilles.
Soyez prudent, Thomas.
C'est un conclave, Aldo, pas une guerre.
Oui, c'est une guerre. Et vous, vous allez devoir choisir un camp.
Il y a un péché que j'ai appris à craindre plus que les autres. La certitude. S'il n'y avait que la certitude et aucun doute, il n'y aurait aucun mystère. Et sans mystère, il n'y aurait plus de foi.
Le cardinal Lawrence est chargé de diriger l'un des événements les plus secrets, les plus anciens du monde, la sélection d'un nouveau pape, où il se retrouve au centre d'une conspiration qui pourrait ébranler les fondements même de l'Église. Ben, en tout cas, conspiration, c'est vite dit, mais tous les papes ne sont pas plus blancs que blancs, disons ça comme ça, ou les candidats à la papauté. Ralph Fiennes, qui joue le cardinal Lawrence en question, qui est comme celui qui doit mener l'élection du nouveau pape. Et voilà, c'est un processus d'élection. Comme il y en a un qui est un peu plus radical le dit, on devrait... Comment ça, on ne parle pas tout latin? On devrait tout parler latin, comme si on serait capable de se comprendre. En ce moment, tu as les francophones d'un bord, les hispaniques l'autre bord, les africains d'un bord. Fait que, tu sais, on devrait tout parler latin, comme si on s'entendrait pas, on ne serait pas divisé par nos langues et nanana. Ce qui n'est pas complètement faux non plus, mais voilà. Ces hommes doivent décider qui sera le prochain pape suite au décès du précédent. Il n'est jamais nommé le précédent pape. Fait qu'on peut supposer que c'est un genre de François en ce moment, mais c'est jamais dit. Et c'est pas plus grave. Il y a des petits clins d'œil peut-être à faire avec... avec d'autres avec d'autres cardinals qui existent. Je ne sais pas à quel point ils ont voulu le faire québécois, ou en tout cas canadien à tout le moins, mais il y a un cardinal Tremblay dans l'assistance. Ce cardinal Tremblay-là est sur le bord de gagner, mais on lui découvre un certain scandale dans son pays d'origine qui fait en sorte que tout le monde va un peu le délaisser parce qu'ils ne voudront pas du gars corrompu. Je ne sais pas à quel point... Ben, en fait, vu que c'est de la corruption plus qu'un scandale sexuel dans son cas, c'est pas tout à fait notre cardinal Ouellet ou notre cardinal Lacroix à nous, mais... On pourrait dire qu'il y a peut-être des petites ressemblances avec des papes qui existent pour vrai. Tu sais, le cardinal radical de l'Italie, avec la montée qui en ce moment en Italie, c'est pas complètement faux. Tu sais, revenir à de la papauté plus stricte qui haït tout le monde puis qui haït les autres religions, tu sais, c'est un peu l'espèce de premier gros débat, est-ce qu'on revient à ce qu'on était avant ou on devient moderne? Ça, c'est d'ailleurs le discours d'un des cardinaux qui accepte l'homosexualité, qui accepte certaines choses que tu as évidemment des papes beaucoup plus renfrognés puis qui vont dire « Oh, mais là, où est-ce qu'on s'en va avec notre religion si on accepte les fous et les folles? » Puis non, non, non. Fait que tu sais, Il y a tout ça, tu sais, veux pas, c'est vraiment pas pro-religion, tu sais, j'avais plus l'impression d'avoir comme une suite au Da Vinci Code. C'est le deuxième avec Ewan McGregor, me semble, où justement, ils sont à choisir un nouveau pape. Il y a tout le processus aussi de fumée blanche, fumée noire, le conclave, etc. Fait que pour ça, on y croit. C'est très bien représenté. Puis même, à même certains cardinaux, ils se posent la question, on est-tu encore pertinent en... dans les années que nous sommes, parce qu'encore une fois, c'est pas mentionné, mais pourquoi je disais que ça pouvait être François, c'est parce que il reçoit les derniers sacrements sur son lit de mort et un des cardinaux mentionne qu'il aurait aimé laisser sa place plutôt que de mourir en poste. Donc on peut supposer qu'on est après Benoît et après François, si ce n'est pas François lui-même. Mais de toute façon, c'est comme je le dis, c'est pas ça qui fait la plus grosse différence de nommer ou non le pape en question. Mais reste quand même que c'est une proposition intéressante, j'ai envie de dire. Tu sais, les films religieux comme ça, des fois, ça peut avoir l'impression que c'est parce qu'on veut glorifier les services, les rites... les rites religieux et tout ça, mais non, il y a quand même une bonne intrigue. Puis bon, voilà, il y a un cardinal invité sur le tard qui arrive avec finalement son invitation en disant « Le pape lui-même m'a permis de venir ici ». Et il y a toute une intrigue avec ça aussi. Bon, est-ce que le cardinal Tremblay est réellement le problématique dans la gang? Est-ce que c'est le plus problématique dans la gang? Sait-on jamais. Il y a un cardinal africain aussi qui, lui... passe proche, mais il arrive de quoi? Fait que, tu sais, une espèce de grosse campagne politique, pas très propre non plus. Ça reste intéressant. C'est un. Tu sais, c'est niché là, comme film religieux, mais ça peut-être laisser piste à réflexion, sait-on jamais. Mais voilà, donc Conclave, c'est à l'affiche depuis la semaine dernière. C'est un bon suspense. Il y a vraiment une belle intrigue. Donc, ça vaut la peine d'être vu sur grand écran, ça aussi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition du Deuxième Service, ici même sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. À la semaine prochaine. Salut.